Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Aujourd'hui, on va essayer de prononcer le nom d'Elon Musk le moins de fois possible et on va échouer lamentablement. On va aussi parler de Temo, l'application d'e-commerce qui conquiert les États-Unis et tout le reste de l'actu tech tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 485, je suis Patrick Béja et nous avons un épisode plein de choses intéressantes, j'espère, mais ce qui est certain, c'est qu'on a un épisode avec des gens intéressants. Ça, c'est complètement garanti sur facture, même s'il n'y a pas de facture. Bonjour Cédric, un grand, comment allez-vous ? On fait, dans les vrais médias, on dit le nom et le prénom de la personne, non ?
Oui, parce que tu sais, il y a toute une partie de la profession journalistique qui a été formée à Sciences Po et où on t'apprend à donner le nom et le prénom de la personne. Ça, c'est pour ça que les gens dans les interviews politiques disent non mais écoutez Jacques Chirac. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Eh bien, écoutez Cédric Ingrand, je suis tout à fait en désaccord avec votre ligne. Par contre, je pense que les idées d'Adrien Naïm sont-elles tout à fait louables, n'est-ce pas, Adrien ? Comment allez-vous aujourd'hui ?
Très très bien, on va se vouvoyer, ça va être très très difficile.
Ça va être
bonjour
très bien
à tous, ravi d'être là pour la seconde fois Patrick.
La seconde fois, la première c'était
de Cédric.
C'était pour un épisode. Alors tu es le co-animateur du Café de l'e-commerce, on a reçu Laetitia Lamary à plusieurs reprises déjà dans l'émission, donc tu es sa moitié dans le podcast et tu as effectivement été présent dans un spécial e-commerce. Est-ce qu'on peut révéler maintenant les dessous de cette émission et ce qui s'est passé qui a affecté donc les sujets qu'on voulait évoquer. En plein milieu de l'émission, je reçois un appel de la crèche qui me dit « Monsieur, votre fille est malade, vous devez venir la chercher tout de suite. »
Oh non.
Et en plein milieu d'un épisode, ma femme était en voyage, etc. Donc c'était la panique. Et donc on a dû écourter, mais ça s'est peut-être pas entendu, j'espère. C'était tellement bien préparé par Adrien et Laetitia que ça s'est pas entendu.
On a eu le temps de terminer l'introduction dans cette moitié, donc c'était très bien.
C'est ça, donc c'était le premier chapitre de 10 chapitres d'épisodes spéciaux sur l'e-commerce.
C'est vrai,
il y aurait des choses encore à dire.
Mais Patrick, quelque chose me dit que c'est un autre épisode hors série aujourd'hui, non ?
Ah, écoute, presque possiblement.
Pourquoi hors série ?
Tweet. Alors, je l'ai intitulé Twitter, la suite, l'essentiel. Parce qu'on a beaucoup parlé de Twitter la semaine dernière. Là, c'est la suite, mais on va faire que l'essentiel de la suite. Et même si l'essentiel, ça risque d'être un petit peu...
C'est la télé-novela de l'année, c'est ce qui se passe.
Ah oui.
Exactement. Et du coup, je vais quand même remercier les patriotes, Frédéric Bilodeau et Stéphane Charland, qui ont rejoint la famille formidable, merveilleuse des patriotes. Merci à vous deux d'avoir fait sauter ce grand pas de la confiance. Merci d'être devenus patriotes et merci aussi aux producteurs SSI78 et Peter Rigal. Faudrait que vous me disiez, les producteurs, si vous êtes contents des épisodes sur lesquels vous tombez. Parce que là, en l'occurrence, comme je le dis à chaque fois, vous êtes le producteur, producteur, celui qui met les sous pour cet épisode, SSI et Peter. Peut-être qu'ils voudraient retirer leurs sous, comme l'ont fait certains annonceurs avec Twitter. Bon, allez, on va commencer immédiatement.
De fait des producteurs.
Ouais, exactement. Les infos à retenir, soyons honnêtes. Il n'y en a que une seule d'infos vraiment importante, c'est la suite de l'aventure Twitter. Et je sens qu'il y en a qui sont déjà un petit peu frustrés, mais comme à chaque fois, on ne choisit pas les sujets. Et c'est vrai que l'importance de Twitter ne se démentant pas, et tout ce qui s'y passe nous occupe dans l'émission. Hein, c'est un petit peu le boulot, mais on va quand même essayer de faire l'essentiel. Avant, je voudrais parler de quelques éléments qui sont en dehors du quotidien de ce qui se passe avec Twitter et Elon Musk, qui sont un petit peu les bases, les choses sur lesquelles on construit notre réflexion. Il y a des gens... Tiens, il y a quelqu'un qui t'envoie des mails.
Il y a des notifications, oui. Je ne sais pas. Quelqu'un
m'assaille. C'est pas sur Twitter. Quelqu'un a caché un téléphone pour t'espionner.
Voilà.
C'est ça. un téléphone pour écouter et il fait ses notifications. Alors, il y a un patriote qui m'a envoyé un message pour me dire très gentiment, très poliment, qu'il arrêtait le soutien à Patreon parce qu'il me trouvait très dur avec Elon Musk, qui était l'un de ceux qui ont vraiment fait avancer la cause de l'écologie, concrètement, hein, de manière très pratique, avec les voitures, les véhicules électriques, et que du coup, mes critiques étaient inappropriées parce qu'il était tellement important pour cet aspect dans cet aspect de sa vie que j'étais trop dur avec lui. D'ailleurs, en parallèle de ça, il y a beaucoup de personnes que j'ai vues exprimer réécrire un petit peu l'histoire sur ce qu'a fait Elon Musk avec SpaceX et Tesla en disant oh, « de toute façon, il n'a jamais rien fait de bien. Avec SpaceX, il se fait payer par la NASA, c'est subventionné, ah, oui, comme s'il n'avait pas fait... » Enfin, comme si la Naval payait les vols de gaieté de cœur, tu vois, qu'ils n'ont pas réussi
en 30 ans. C'est super facile, c'est pour ça que personne ne l'avait fait avant. Donc.
Mais du coup, ce que je veux dire sur ces points-là, c'est qu'il est vraiment important, d'une part, de ne pas idéaliser quelqu'un, et d'autre part, de ne pas se laisser emporter par les sentiments négatifs, et Dieu sait que j'en ai des sentiments négatifs vis-à-vis de Musk, dans l'instant pour juger l'ensemble de la personne ou de ce qu'il ou elle a fait. Et j'ai donné cet exemple, c'est comme si j'adore ce qu'a fait Steve Jobs, je pense que je peux dire, même si j'espère être assez objectif, c'est un personnage que j'admire vraiment, Steve Jobs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des idées. Peut-être que s'il avait été sur Twitter, comme je le rappelais à l'épisode précédent, bah, il aurait vanté les mérites des jus de légumes pour soigner le cancer, par exemple. Et ce n'est pas parce qu'il a révolutionné à de nombreuses reprises l'industrie de la tech qu'on ne pourra pas le critiquer sur d'autres choses qu'il fait. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on critique quelqu'un qu'on va effacer ses contributions par le passé. Donc, la chose que les auditeurs attendent, j'espère, la raison, enfin, ne pas le faire, ça serait les desservir, ça serait la chose que les gens attendent, c'est qu'on essaye. Alors, objectif, c'est un mot qui est un petit peu compliqué, mais juger la situation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas critiquer ou apprécier, mais essayer de la juger sur les éléments qu'on a. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en l'occurrence, avec Twitter. Et si on est critique, c'est parce qu'on estime que les choses, en dehors de toute considération, nous amènent, dans nos analyses, à ces conclusions-là. Et j'espère que c'est ce que veulent les auditeurs. À côté de ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Twitter, c'était déjà un enfer, donc de toute façon, c'était déjà infernal, c'était horrible ». Qu'est-ce que ça va changer ? Et d'autre part, il y a des gens qui disent c'est que le début, tout peut changer. Et donc, ce qu'on juge maintenant n'a pas de valeur parce que dans un mois, deux mois, cinq mois, les choses seront différentes. D'une part, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée un petit peu absolutiste qui voudrait que Twitter, c'est un enfer et qu'il n'y a rien de bien et que c'est déjà infernal et que ça ne peut pas être pire. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça avant le rachat et qui maintenant reviennent un petit peu sur leur dire et qui disent « Ah ben non, en fait, Twitter, il y avait des choses. » La réalité, c'est que Twitter était... Ils essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient. Ils faisaient beaucoup de choses et il y avait aussi beaucoup de choses positives sur Twitter. Et donc, ça peut être pire, quel que soit l'état. Et d'autre part... C'est que le début, c'est sûr, on est à deux semaines du rachat. Il est tout à fait possible que soit Elon Musk change les choses, soit que les choses se corrigent naturellement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on juge, c'est pas juste « Ah oh bah oui, on ne sait pas, ça a l'air un petit peu compliqué », mais il y a des choses véritablement inquiétantes qui ne sont pas simplement... C'est qu'il y a des choses sur les intentions qui sont préoccupantes et c'est pas juste, il y a des petites erreurs au lancement, des petits problèmes au démarrage. Donc, évidemment que tout peut changer. Ça se trouve, dans six mois, les choses iront beaucoup mieux. Mais ça ne change pas le fait que notre analyse aujourd'hui est inquiétante au-delà de juste ce qui se passe pour la première semaine. Il y a des intentions qui sont préoccupantes. Donc, ça, c'est Patrick, quelques éléments que je voulais préciser. Dis-moi, Adrien.
Je trouve j'aimerais bien avoir votre avis, mais je trouve que c'est la première fois qu'Elon Musk il s'expose au grand public. Alors on le connaissait, mais là avec ce rachat, on a commencé à avoir tous les yeux braqués sur lui et sa personnalité un petit peu déviante, ses humeurs et des fois son un peu le chaos autour de ce qu'il raconte. Bah ça a montré à beaucoup de personnes que c'est peut-être pas. Enfin oui, il est un génie. Mais il ne faut pas fantasmer autour d'Elon Musk. Mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on s'en rend compte, parce qu'il a toujours été comme ça. Mais là, c'est aux yeux du grand public.
C'est compliqué, mais Je t'entendais parler de Steve Jobs et je me disais qu'il faut toujours séparer l'artiste de son œuvre. et jamais plus que dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que sur tous les plans, ça reste la plus mauvaise décision d'Elon Musk. Et c'est curieux, parce que moi, tu sais, j'ai une théorie vieille comme tout, qui est qu'en fait, Elon Musk est un envoyé du futur. C'est pour ça qu'il sait ce qui va marcher à coup sûr. C'est la seule explication au fait qu'à chaque fois qu'il lance un truc, ça paraît impossible et il le réussit quand même à la fin.
Enfin, à chaque fois, il y a Tesla et SpaceX, mais The Boring Company et bah, d'autres.
Il y a eu PayPal, il y a eu tout ça. Oui, mais ça,
c'était des blagues.
Tu vois, c'était des petits side projects, c'était des trucs pour s'amuser. C'est comme le lance-flamme et les bouteilles de tequila. Enfin, tu vois,
Twitter, c'est certainement dans la catégorie des trucs sérieux qu'on ne fait pas. Enfin, lui, il est peut-être en train de jouer, mais c'est un truc sérieux, c'est sûr.
Ah bah, vu le prix qu'il a payé pour, c'est sûr que voilà. Et puis qu'il a payé. Qu'il n'a pas été seul à payer. Je pense que ça fait aussi partie du problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul maître à bord comme il a pu l'être ailleurs. Donc, ça le met dans une situation un peu compliquée. Il y a d'abord un vrai problème d'argent. Alors, on rentrera dans le détail tout ça, mais c'est vrai que... Et ça met au jour des trucs sur son impulsivité, son... Bon, bref. Il y a aussi, je pense, de bonnes idées, mais là, pour l'instant, c'est dur de... See the forest for the trees, comme disent les Américains.
Ça soulève une question d'ailleurs qu'on a évoquée à plusieurs reprises dans l'émission, qui est la nature même de Twitter fait qu'on voit le quotidien et la réalité des personnalités publiques. Et que, en fait, peut-être que tout le monde est un peu un abruti, et si vous m'excusez le langage, est un petit peu un abruti, un petit peu un connard, un petit peu impulsif. Et que si on avait eu Twitter il y a 20 ans, 30 ans, 50, 200 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde est un petit peu infréquentable. Dieu sait que si on prend certains tweets que j'ai envoyés, il n'est pas du tout impossible qu'on se dise « Patrick, il est quand même particulier ». Maintenant, il y a quand même un pattern, là. Faut pas non plus, tu vois, tout relativiser. Il y a quand même des choses qui sont inquiétantes avec le personnage spécifiquement. Bon, on ne peut pas faire ce qu'il a fait et pas être un petit peu atypique, c'est certain, mais c'est plus inquiétant que ça. Et d'ailleurs, il y a quatre éléments que j'ai divisés et je vais essayer de les évoquer là à la suite et puis on pourra en discuter après. Quatre éléments importants de ce qui s'est passé dans cette semaine depuis l'épisode précédent et qui est notable dans la manière dont Elon Musk est en train de gérer Twitter à ses débuts. La première chose, c'est évidemment les licenciements. Il a renvoyé de manière, alors on pourra critiquer la chose, mais de manière assez froide, la moitié de la société, 50% des effectifs ont été remerciés. Et ça, c'était déjà inquiétant, suffisamment notable. Mais on s'est rendu compte quelques jours après que les personnes qui avaient été renvoyées, certaines d'entre elles en tout cas, étaient rappelées par Twitter. Ils ont été remerciés. Alors, il y a une loi aux États-Unis qui empêche le renvoi immédiat quand on renvoie au moins 30% de la société. Donc, ils ont reçu quand même 2 mois de salaire. Enfin, ils reçoivent. Ils sont encore employés, mais désactivés. Ils reçoivent 2 mois de salaire et ils ont leur assurance sociale qui est maintenue, parce qu'évidemment, après ça, c'est terminé. Mais donc, ils ont ça pendant 2 ou 3 mois. Et quelques jours plus tard, on apprend que Twitter cherche à réemployer certains d'entre eux, parce qu'ils se sont rendus compte que certains ingénieurs étaient essentiels pour maintenir l'application iOS et Android, certains... Enfin bref, ça fait vraiment pas propre. C'est genre, ok, merci, au revoir, avec même pas un message. Elon Musk n'a d'ailleurs toujours pas communiqué avec la société dans son ensemble. Il y avait un message très froid qui disait « You're fired », et voilà. Mais bon, ça, à la limite, voilà, c'est un niveau de réalité du capitalisme américain qu'on peut comprendre et ou accepter ou non. Mais la vraie problématique au-dessus de tout ça, c'est que tout à coup, il se rend compte, ah merde, attends, non, on a renvoyé John, mais John, on en a besoin pour tel truc. Oh là là, attends, non, tu veux pas revenir, John? On espère qu'il va négocier son contrat, John. La deuxième chose, c'est...
Vas-y.
Je vais vous laisser revenir, mais je vais passer sur tout ça rapidement. La deuxième chose, c'est l'abonnement Twitter Blue à 8$, après des discussions, 20$ peut-être, non, finalement, c'est 8$. Ce que donne cet abonnement désormais, c'est la vérification de paiement qui se substitue à la vérification d'identité. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de vérification d'identité sur Twitter, et c'est un problème dans lequel, auquel je vais revenir dans un instant, mais il y a d'autres idées qui sont étudiées pour cet abonnement, comme par exemple le fait de pouvoir uploader des vidéos de meilleure qualité plus longues, la monétisation de différentes formes de contenu, et des idées qui semblent un petit peu lancées en l'air par Elon Musk et ses équipes, mais qui pourraient être des fonctionnalités intéressantes. D'ailleurs, MKBHD, Marcus Brownlee, a fait une vidéo sur l'idée que Twitter pourrait évoluer pour offrir des fonctionnalités intéressantes pour les créateurs, pour en faire un réseau social riche de création, en plus des discussions. Et c'est un peu frustrant ce qui se passe cette semaine, parce que c'est de ça qu'on devrait parler. Pour moi, c'est comment faire de Twitter un réseau encore meilleur, encore plus intéressant, encore plus intéressant pour les créateurs. Et malheureusement, ce n'est pas de ça qu'on parle, parce que ce qu'on constate, c'est que Elon Musk est assez erratique dans ses décisions. Et la troisième chose que je vais évoquer, c'est les parties de Twitter qui ont été les plus endommagées. Et c'est tout ce qui a à voir avec le trust and safety. Les trust and safety, c'est donc la confiance et la sécurité des utilisateurs. Et en l'occurrence, les employés les plus touchés par les licenciements font partie du groupe Trust and Safety. Elon Musk semble être en train de se rendre compte à ses dépens que le problème dont tout le monde parlait de la vérification sur Twitter, c'est que quand on n'a plus de vérification d'identité et qu'on le remplace par une vérification de paiement, eh ben, n'importe qui peut dire qu'il est n'importe qui. Et on a vu des dizaines de faux Elon Musk arriver, apparaître. Et du coup, lui, agacé par la chose certainement, a dit « Bon, ben maintenant, nouvelle règle, on n'a plus le droit de dire qu'on est quelqu'un d'autre sans écrire parodie sur son compte, parce que sinon, ben voilà, on va fermer le compte immédiatement sans préavis. » Et c'est une des nombreuses décisions impulsives qu'il a pu prendre, en plus du fait que il a exprimé à de nombreuses reprises l'idée que Twitter devait être entièrement libre pour la liberté de parole. Et c'est un exemple, je ne vais pas vous saouler avec tous les exemples, mais c'est un exemple de cette limite de la liberté de parole absolue que défendent certaines personnes, qui est absolue jusqu'à ce que ça les embête. Et quand ça les embête, tout à coup, la liberté de parole, elle n'est plus si absolue que ça. Et en plus du fait de démontrer un petit peu un point quand même assez hypocrite de son discours à Elon Musk, ça démontre surtout le problème fondamental qu'essayait de résoudre la vérification d'identité avec Twitter, qui était un problème de désinformation profond et vraiment sérieux. Et la solution, c'était de vérifier l'identité des gens. Et en supprimant la vérification d'identité, en la remplaçant par une vérification de paiement, eh ben, le problème en question revient. Alors, quand il s'agit d'Elon Musk, il va pouvoir faire bannir les gens. Mais il dit on va avoir un niveau supplémentaire pour vérifier les personnes importantes, etc. Les gouvernements, les choses du genre. Mais ce n'est pas en renvoyant, et c'est là que je dis il y a des intentions qui semblent inquiétantes, ce n'est pas en renvoyant l'équipe Trust and Safety qu'il va pouvoir vérifier l'identité des personnes importantes et combattre la désinformation, qui est un problème essentiel. Un problème essentiel en particulier aux États-Unis, où j'en parle de temps en temps parce que c'est intimement lié à la vie de Twitter, qui est le plus grand porte-voix, le plus grand média de communication au monde, qui est, même s'il a moins d'utilisateurs que d'autres, et ben il est repris dans tous les médias, donc il porte. Eh bien, en l'occurrence, la question de la désinformation est centrale parce que le Parti républicain américain, et je suis désolé qu'on ait à parler de politique, mais c'est important, le Parti républicain est mené essentiellement, il y a des jeux de pouvoir, mais essentiellement par Donald Trump, qui continue à nier le fait qu'il a perdu l'élection de 2018. Et à la limite, on pourrait dire, bon, bah, c'est 2018, ça s'est bien passé, c'est dans le rétro. Mais ses partisans et ses suiveurs dans le Parti républicain se mettent à nier la validité des élections qu'ils perdent. Et on est là au jour des midterms, donc des élections du Parlement. C'est une attaque contre la démocratie très importante, enfin essentielle, dramatique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent Twitter, qui ne comprennent pas l'importance de cette crise que vit la démocratie américaine. Et évidemment, le fait que Elon Musk, par exemple, appelle à voter républicain malgré ce problème, ou qu'il limite la capacité de Twitter à vérifier la désinformation, est un élément essentiel de cette discussion que, encore une fois, beaucoup de gens ignorent, en particulier en Europe, et qui mène, et c'est peut-être le problème le plus important dont, que Twitter a aujourd'hui, qui mène à de nombreux annonceurs, qui mène de nombreux annonceurs à se retirer de Twitter. Ils n'ont pas réussi, Twitter, à prévendre leur inventaire de pub pour 2023, alors que généralement 20% de l'inventaire est déjà vendu dans les derniers mois de l'année précédente. Et puis surtout, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont hyper prudents, voire qui ont dit on suspend nos pubs. Et il faut savoir que l'abonnement en question de Twitter Blue pourrait ramener quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions de dollars par an. Twitter fonctionne avec la pub. Les 5 milliards de revenus qu'ils ont eu l'année dernière, c'était 90% de pub. Donc le fait que les annonceurs ne veuillent plus, ou certains annonceurs importants ne veuillent plus faire de la pub sur Twitter, c'est un vrai problème pour Musk. Et là, on en arrive à la question de peut-être que tout sera différent dans 5 mois. C'est pas impossible, parce qu'il va devoir se rendre à l'évidence. Et entre parenthèses, quand il a exprimé le fait qu'il y avait une chute massive du revenu, là encore, on sent cette problématique politique, parce qu'il dit c'est dû à des groupes d'activistes qui font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent pour mettre de la pression sur les annonceurs. Entre parenthèses, ça aussi, c'est de la liberté de parole absolue. Hein. Quand on est pour la liberté de parole absolue, le fait que des activistes qui aient un registre de discours de l'extrême droite américaine, mais que ces activistes essayent de dire aux annonceurs « faudrait pas que vous fassiez de la pub chez eux parce qu'on les aime pas », ça fait partie de la liberté de parole. Mais comme par hasard, quand cette liberté de parole s'exprime contre ce qu'il pense lui, ça lui plaît beaucoup moins. Et il a également critiqué des journalistes en disant « vous n'êtes pas les seuls... » comme toujours, les journalistes pensent détenir la vérité ou un truc du genre, ce qui est là encore quelque chose d'inquiétant. Parce qu'on est dans des sphères un petit peu, on n'est pas loin du complotisme, ce genre de choses, comme on en parlait d'ailleurs la dernière fois. Et en tout cas, très certainement proche de l'aile dure du Parti républicain, qui n'est pas de l'extrême droite et qui n'est pas de la... Enfin, c'est de l'extrême droite de fait, mais je veux dire, c'est pas petits groupes. C'est pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, vu de la France... Ce sont des groupes qui n'ont pas accès au pouvoir ou qui sont des extrémistes un petit peu loin. Là, pas du tout. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. On a l'une des deux forces politiques majeures aux États-Unis qui sape complètement la confiance dans la démocratie. C'est une attaque dramatique. Il est impossible de séparer de ce qui se passe sur Twitter, et c'est pour ça que je dis moi j'aimerais bien qu'on parle de
Patrick, tu peux complètement la séparer de ce qui se passe sur Twitter. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 200 candidats qui se présentent aujourd'hui, soit pour le Congrès, soit pour d'autres fonctions, et pour qui Donald Trump a gagné l'élection et ne l'a pas perdu, n'a pas grand-chose à voir avec Twitter.
La désinformation prospère, puisse prospérer plus sur l'un des réseaux sociaux majeurs et le porte-voix, encore une fois, le plus important du monde, pour moi, ce sont deux problèmes liés. Si on ne parlait que de Elon Musk est en train de décider de faire payer les abonnements ou de mettre un paywall complet sur Twitter, on pourra surfer pendant une heure par jour, et puis, ou je ne sais pas, une heure par semaine, et après, il faudra payer. Tu vois, ça serait des préoccupations uniquement... tech, et ça serait intéressant de débattre comment est-ce qu'on peut améliorer le produit, faire un truc plus intéressant, etc. Le problème, la vraie préoccupation, c'est est-ce qu'il va redonner cette voix ou faciliter la voix de ces extrêmes qui sont problématiques pour notre démocratie, de la même manière qu'on se demande si les réseaux sociaux aggravent les choses, la situation de la société, de par la diffusion de désinformation. Et s'il facilite la désinformation, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant semble aller plutôt dans ce sens. S'il facilite la désinformation, moi, je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. Mais j'ai beaucoup, énormément parlé. Du coup,
oui. Allô.
Je vous donne la parole. Je ne parle plus, c'est fini.
Je sais même pas par où reprendre le truc, parce qu'en fait, voilà. Sur les licenciements, pour ce que j'en ai compris, et je suis parfaitement prêt à être corrigé, en fait, ils avaient une sorte de deadline, parce qu'en fait, il y a énormément d'employés qui sont aussi payés en actions, et la limite pour être payé en actions, c'était mardi. Et donc, si licenciement il y avait, il fallait qu'il leur soit signifié avant mardi. C'est intéressant parce que moi j'ai entendu des interviews de d'ex-employés ou de presque ex-employés ou de futurs ex-employés de Twitter qui se désolaient de la situation et du côté un peu rapide quand même de l'opération, mais qui pour autant disaient bon, après, c'est vrai que c'était quand même très très mal organisé. Enfin, c'était devenu une organisation assez pataude où rien n'avançait parce qu'il y avait X niveaux de management intermédiaire qui faisaient que rien ne bougeait jamais. À tel point que même Jack Dorsey a fait un tweet en disant non, c'est vrai que. Oui, on s'est un peu laissé dépasser par la croissance de Twitter et on n'a pas peut-être pas gardé la bonne taille. Ce qui s'est passé à l'intérieur est une histoire de fou parce qu'en fait, il a fallu qu'il s'invente des espèces de critères objectifs pour savoir qui reste et qui part. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée funeste de dire, bah, par exemple, tous les développeurs, vous allez imprimer tout le code que vous avez produit.
On en parlait la semaine dernière.
Le mois dernier, la semaine dernière, enfin bref, bon. Et ils l'auront fait imprimer. Et puis après, ils se sont dit, non, c'est un peu con de faire imprimer toute la code base de Twitter. Donc non, vous allez détruire ça et puis vous allez nous copier-coller ça. Bref. Mais là encore, c'est un critère, mais c'est pas forcément un critère très payant parce que c'est pas le volume de ce que tu as produit qui est intéressant. Peut-être même qu'en détruisant du code, tu as rendu service, tu vois, à la plateforme.
Ah, c'est l'histoire très célèbre de la philosophie de développement, c'était chez IBM, non ? Où ils payaient à la ligne. Et donc, les développeurs, oui. les développeurs faisaient du code aussi volumineux, aussi problématique que possible.
Enfin, c'est ça, aussi tu finis possible, par faire du Balzac, quoi, tu vois, c'est où il y a 8 pages introductives sur le décor de la salle à manger. Quoi. Et enfin bref, mais il leur fallait des critères. Mais on a bien vu qu'il y avait rétro-pédalage derrière, parce qu'ils se sont aperçus que tout à coup, même si on dit que les cimetières sont remplis de personnes indispensables, parfois il y a vraiment des personnes indispensables, en tout cas à court terme. Et du coup, oui, ils ont rappelé des développeurs. Enfin, c'est un peu, on sent un peu la panique à bord, même si de fait, il y a un problème économique profond depuis longtemps chez Twitter, parce que c'est une entreprise qui ne sait pas vraiment gagner d'argent. Enfin, qui en gagne un tout petit peu, mais c'est pas qui n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'elle devrait. Rien à voir avec des sociétés de taille comparable dans le même secteur. Donc, le fait qu'il y ait des licenciements n'est pas un truc surprenant. La façon dont ça se fait est un peu bon.
Moi, j'ai lu. Non, c'est un indice. Disons que c'est une brique en plus sur le. Tu vois, c'est le genre de truc. Ah oui, bon, ok. Et puis quand tu en additionnes 10, tu te dis, c'est pas très propre, quoi, ce qui se passe là.
Ouais, mais alors, d'abord, tout ça est un peu jeune hein, dans l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire. On va d'accord. Peut-être laisser la poussière retomber. Parce que sur le payant. Ça fait longtemps que je pense que le payant est un début de solution, pas forcément purement économique, parce que tu l'as dit, même si tous les gens qui ont aujourd'hui une checkmark se mettent à payer 8 dollars par mois, et même s'il y en a 5 fois plus qui payent 8 dollars par mois pour avoir une checkmark, ça va pas sauver Twitter. Il restera quand même une partie publicitaire. Enfin, il y a, c'est pas. Je pense qu'un modèle payant serait plus vertueux. Parce qu'en plus, quand tu payes, tu donnes ton nom. C'est bête, hein. Mais tout à coup, il faut. Voilà.
Disons que là, sur la question de l'identité, par exemple, c'est très simple. Il a dit non, mais c'est plus question d'identité. C'est très facile à corriger. Bah, tu payes et donc on vérifie ton identité. Voilà, basta. L'identité est toujours vérifiée. Et puis c'est vraiment très simple. Et donc, oui, dans 2 semaines, tout aura peut-être changé, ça c'est certain. Mais l'intention.
Mais alors, il y a une fausse idée. Hein. Ils ne vérifiaient pas les identités. Hein. Je peux te dire, moi j'ai une checkmark. Ah bah non. Mais non, si. Patrick, moi j'ai une checkmark, personne n'a jamais vérifié.
Mais
quoi
tu
que
l'as
soit.
Depuis combien de temps, toi?
Bah depuis bien longtemps.
Bah voilà.
Mais le processus a évolué. Ce qu'ils ont vérifié.
Aujourd'hui, c'était vérifié avec une carte d'identité. Bah, c'est pas un truc complètement inviolable, mais il y avait une sorte de vérification d'identité et c'était. Enfin, quand tu voyais quelqu'un qui avait un checkmark, tu disais, ah bah oui, c'est la personne qu'elle dit qu'elle est.
Mais on pouvait le vérifier aussi à travers la cohérence de l'adresse email, enfin voilà. Bon. Mais donc ça, à la limite, le fait de toute façon que tu d'instituer des comptes payants pour avoir une checkmark, à mon avis, n'est pas une mauvaise idée, même si ça m'emmerde parce que je vais être forcé de payer. Donc maintenant, je me retrouve dans une position de consommateur en disant, attends, je vais payer, mais je vais payer pourquoi ? Parce que payer pour la checkmark, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que la checkmark n'apporte rien d'autre que la checkmark.
Ça dépend, disons que en l'occurrence là ce qu'il veut faire, on l'a peut-être éludé, enfin je l'ai certainement éludé, mais c'est l'idée que les checkmarks, les personnes avec checkmark en gros se parleraient entre elles et tout le reste est dépriorisé, c'est-à-dire que quand on va voir des tweets, a priori on va voir surtout les tweets des personnes qui ont la checkmark, donc qui ont payé, et en plus de ça, dans les réponses, les réponses de personnes avec checkmark seront données en priorité. Et les autres viendront tout en bas après toutes les personnes avec les checkmarks. Donc ça crée une sorte de système de casse qui est, pourquoi pas, hein, là encore, moi je ne suis pas contre le principe, mais ce que disait Elon Musk à la base, c'est « power to the people », voilà maintenant le réseau social le plus important du monde est libéré, machin. Non, ce n'est pas « power to the people », c'est « power to ceux qui payent ». Donc il faut comprendre ce qu'on veut et ce qu'on crée. Et lui, ce qu'il est en train de créer, c'est un Twitter en caste, où il y a les gens qui payent et tout le reste. Alors, ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des services payants partout, mais il faut savoir ce qu'on crée. Et lui, c'est ça qu'il est en train de créer. Il est en train de faire son Twitter pour lui, en quelque sorte. Ouais. Celui qui voudrait.
J'ai une lecture légèrement différente. C'est-à-dire, les priorités, quand tu l'écoutes, quand tu lis, c'est la modération et la liberté d'expression. Et à mon sens, il y a deux autres priorités qui, en interne, sont gravées partout. C'est contrôle des coûts. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été virées, parce qu'il fallait faire quelque chose. Il faut savoir que Twitter, suite au rachat, il y a 13 milliards de dettes et ils ne gagnent toujours pas d'argent depuis 10 ans. Ils ont gagné 2 ans de l'argent. Donc ça, c'est un vrai problème qui amène la deuxième grosse priorité, c'est la monétisation. Et on en a parlé un petit peu avec faire payer les utilisateurs. À mon c'est pas là qu'est l'argent. Patrick, tu le disais, c'est la publicité. La publicité, c'est là où il y a l'argent. Donc, c'est les annonceurs, les créateurs de contenu d'une certaine manière. Mais c'est vraiment les marques, les annonceurs qui vont payer. L'annonce des annonceurs qui quittent, la réalité, c'est que le marché, il est morose. Et de toute façon, les Meta, Snap et compagnie, ils ont tous annoncé des revenus publicités en berne. Donc, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Enfin, je ne suis pas trop inquiet parce qu'en fait, c'est déjà compliqué sur le marché. Le marché de la pub se casse la figure. Mais le vrai challenge pour Twitter, à mon sens, c'est qu'est-ce qui va être mis en place pour les marques, parce que c'est elles qui vont payer la dette, qui vont payer de la pub, et c'est un cercle avec les utilisateurs d'un côté, les créateurs de contenu et les marques. Et à mon sens, faire payer les utilisateurs, c'est pas nécessairement la chose à faire, ça peut aider d'une certaine manière pour la modération et la liberté d'expression comme on en a parlé, mais le vrai challenge, c'est créateurs de contenu et marques, comment est-ce qu'on peut faire pour monétiser tout ça, et la pub, c'est un des moyens. Là, on est dans une phase de transition. Je suis convaincu qu'Elon Musk va être bien accompagné, il va trouver d'autres moyens de faire venir de l'argent sur Twitter.
Alors, je suis assez d'accord avec Patrick quand il dit que Elon Musk doit en tout cas en partie partir de sa propre expérience. C'est-à-dire que moi, ça fait des mois, des années qu'à chaque fois que Elon Musk tweetait, et il avait combien, 300 millions d'abonnés, un truc comme ça, ou 100 millions, je ne sais plus, enfin énormément. 100 millions, c'est déjà pas mal. Et à chaque fois qu'il tweetait, instantanément, parce que c'était des bots, il y avait en dessous 4000 tweets de gens qui essayaient de te piquer tes bitcoins, de te vendre des trucs bizarres, enfin, ou de placer, de faire du spam, etc.
Ce genre de trucs, ouais.
Voilà. Et c'est un truc qui est immensément compliqué et chronophage à réprimer, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai tendance à penser, mais c'est peut-être que moi, que l'histoire des replies de comptes à checkmark qui apparaissent en haut de la liste, c'était déjà pas mal le cas. Mais je veux bien être corrigé là-dessus. Mais je l'ai vu de manière assez récurrente. Mais c'est vrai, le payant ne va pas tout régler. Il va donner un petit peu de discipline et il va permettre au moins de Alors, est-ce que ça suffit 8 euros par mois pour faire des vérifications ?
L'équation compliquée, c'est qu'il y a peu de... Enfin, il y a une croissance, mais en termes d'utilisateurs, la croissance, elle est relativement faible. On est pratiquement sur un plateau maintenant. Donc, comment est-ce que tu as... Tu as toutes les cartes en main. Comment est-ce que tu fais pour générer de l'argent ? Et faire payer les utilisateurs, ouais, ok, mais est-ce que ça va remplir le trou ? Je ne sais pas, est-ce que ça va les faire fuir ?
C'est certain que ça ne va pas remplir le trou. Il n'y a aucun moyen, enfin, à moins que tout à coup, tout le monde se mette à payer sur Twitter, chose à laquelle je ne crois absolument pas, évidemment.
Mais ce n'est pas les utilisateurs qui ont l'argent, c'est ça que je veux dire.
C'est ça, c'est les annonceurs. Exactement. Et la grosse problématique, et c'est pour ça qu'on est obligé de revenir, j'en suis désolé, mais de revenir à la question de la politique, la grosse problématique, c'est que les annonceurs ne veulent pas être à côté de messages non modérés. Exactement. Ils ne veulent pas. Et ils ne le seront pas. Malgré tout ce que j'ai dit, il y a une énorme division aux États-Unis et la figure de Trump est politiquement, évidemment, extrêmement forte. Socialement et pour la question des annonceurs, ça reste compliqué. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont inquiets de voir potentiellement Trump revenir sur Twitter et ses amis. Alors Trump dit non, moi je suis en train de soutenir Truth Social et si je me barre, le truc s'écroule. Donc, je ne vais pas revenir sur Twitter. Visible. Il n'a pas tort, ouais. Hein, c'est vrai.
Mais, ouais.
Les annonceurs, ils ont fait plier YouTube. Les annonceurs, ils ne vont pas sur Gab, ils ne vont pas sur Parler, ils ne vont pas sur tous ces réseaux d'extrême droite à la liberté de parole. Et si Twitter glisse vers ces choses-là, moi, je ne suis pas du tout convaincu que les annonceurs reviendront. Et c'est ça, au final, ce qui risque de faire plier Musk, je pense, d'ici une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Parce qu'il faut un réseau qui soit un petit peu propre pour que les annonceurs soient là. Parce que c'est pas avec.
Mais moi j'ai un truc, il a jamais dit le contraire. Hein.
Ah bah lui, oui, c'est la liberté de parole absolue. People.
Non, du tout. Mais lis ce qu'il écrit. Il a écrit noir sur blanc. Il n'est pas question que Twitter devienne un espace free for all, machin, etc.
Alors ça, c'est le unmoderated hellscape, machin. C'est ce qu'il a écrit pour rassurer les annonceurs dans une ligne qui va à l'encontre de tout le reste de ce qu'il a dit depuis des mois. Je suis désolé, tu peux pas juste dire une fois un message qu'on t'a écrit parce que ton avocat te disait non mais attends, faut quand même le dire parce que sinon ils vont avoir peur, machin. Et le reste du temps, d'ailleurs les annonceurs s'y trompent pas, ils voient le chaos qu'est Twitter et la personnalité changeante d'Elon Musk, ils savent pas à quoi s'en tenir, ils disent le type il est libertarien pour la liberté de parole absolue, c'est ce qu'il dit à répétition depuis des mois. Eh ben, on va attendre de voir venir. Et je les comprends. C'est pas...
C'est vrai qu'on a...
Vas-y, Adrien.
Ouais, non, mais c'est en ça que moi, je suis beaucoup plus optimiste parce que justement, aujourd'hui, pour les annonceurs, Twitter, c'est nul. Les outils qui sont mis à disposition ne sont pas bons. Ils font surtout du brand awareness, de la notoriété de marque. Et il y a une opportunité pour Elon Musk de transformer Twitter pour donner des meilleurs outils. Il est en train, justement, en termes de features, de changer certaines choses. Et on est dans une phase de transition. Donc, en fait, je pense que dans 6 mois, 9 mois, s'il réussit son pari de... nettoyer la plateforme et de donner les bons outils et les bonnes métriques pour les annonceurs, ils vont venir et ils attendent qu'une chose, c'est d'investir justement sur des médias et d'avoir un ROI. Donc moi, je suis plutôt optimiste parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Tu le disais, Twitter a un tel impact qu'il y a plein de trucs encore à faire et rien n'a réellement été fait jusque-là, à mon sens.
Moi, pour conclure, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que Elon Musk n'a aucune envie d'avoir un Twitter propre. Elon Musk est un libertarien qui veut avoir la fameuse liberté de parole absolue qui favorise les extrêmes. Mais, et c'est là que l'ironie suprême verra peut-être sa réalisation, la réalité du truc, c'est que les annonceurs ne viendront pas si c'est la liberté de parole. Et que donc, financièrement, la réalité financière de la chose va obliger Elon Musk à, au minimum, garder la modération qu'on connaît aujourd'hui sur Twitter. Pour que les annonceurs se soient rassurés et remettent de l'argent. Donc, sa philosophie libertarienne qui donne raison au marché va finalement l'obliger à imposer une certaine modération et plier à ces groupes d'extrémistes activistes qu'il décrit justement dans ses tweets. Et donc, les choses, j'imagine, risquent d'aller dans ce sens-là. Et on verra.
Il y a une autre pression qu'on oublie, qui va être celle du reste de sa vie. C'est-à-dire que Elon Musk avait déjà plusieurs métiers avant de s'intéresser à Twitter. Il a Tesla, SpaceX, etc. J'ai envie de dire, c'est des entreprises qui tournent maintenant. Il est plus dans une période de crise constante comme ça a pu l'être pendant longtemps. Mais quand même, je pense que là aussi, et tant les entreprises elles-mêmes que leurs actionnaires vont peut-être le pousser du coup en disant boss, reviens. T'es gentil parce que ton espèce de hobby à 44 milliards, ok, tu fais, c'est ton truc, hein, moi je, voilà. Mais j'ai souri quand j'ai vu qu'il avait pris 50 développeurs de l'équipe qui fait Autopilot chez Tesla pour venir regarder du code ou valider du code. Ou, bon, ok, pourquoi pas, mais...
Et Cédric, pour aller dans ton sens, il y a une communication interne qui a été faite par Elon Musk qui disait les décisions, c'est moi qui les prends. Il y a une personne qui prend les décisions, c'est moi. Donc il centralise en plus toutes les décisions. Donc effectivement, à un moment donné, ça, c'est pas scalable. Enfin, ça ne va pas pouvoir continuer à se développer comme ça.
Ça va aller.
En tout cas, au début, pour nettoyer, ça permet d'avoir
mois,
une cohérence.
Et au bout d'un moment, il va nommer un CEO qui va s'occuper du
Il sera bien accompagné. Il y a énormément de personnes.
Ouais, enfin, ça, il sera bien accompagné. Le bon sens voudrait que, mais la réalité, on constate que. Moi, je pense qu'il va mettre soit Calacanis, soit peut-être Calacanis d'ailleurs, qui n'est pas un personnage.
Alors, il se trouve que moi, je connais bien Jason Calacanis.
Je le connais un peu aussi.
Et voilà, et c'est pas. Comment dire? C'est pas l'ampoule la plus brillante
du
magasin.
Ah bah non, mais on est d'accord. Mais n'empêche qu'il est dans son triumvirat, là,
dans son espèce de premier cercle. C'est amusant parce que je lisais hier soir un thread intéressant sur Twitter de Chris Sacca, qui est un investisseur, un milliardaire, start-upper, etc. Et qui connaît bien Musk et qui a fait tout un thread sur où il dit en fait l'un des plus grands risques que vous courriez quand tout à coup vous avez acquis beaucoup d'argent et de pouvoir, c'est de n'avoir plus personne autour de vous qui soit capable de vous dire non, bah, c'est peut-être pas une bonne idée ça. Voilà. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'il prend un contre-exemple qui est Zuckerberg. J'ai pas l'impression que Zuckerberg soit et beaucoup de gens autour de lui qui disent non, ça va pas être possible. Ouais. C'est une très mauvaise idée. Là, il est en train de se noyer dans le métaverse, donc voilà. Je vous invite à aller lire le thread parce qu'il est long, mais il est très très intéressant. Le thread de Chris Sacca, @Sacca, S-A-2-C-A, sur Twitter. C'est écrit avec beaucoup d'intelligence et je pense que voilà, c'est peut-être un bon résumé de la situation.
Je vais vous laisser avec cette dernière réflexion que j'ai lue sur Twitter, figurez-vous. Je ne sais plus qui l'avait fait, je suis désolé, mais quelqu'un parlait de Mastodon et disait ah ouais, Mastodon, en fait, c'est vachement bien, mais c'est comme si c'était Twitter géré par qu'est-ce qu'il disait, genre le fisc du Pas-de-Calais ou un truc de genre.
Non, par l'URSSAF du Limousin.
Ah, mais l'URSSAF du Limousin, c'est pas rien. Bon, je suis désolé,
non, mais
pour les Pas-de-Calaisiens.
Moi aussi, je pensais que c'était au hasard, mais l'URSSAF du Limousin, c'est un truc très particulier parce que c'est l'URSSAF du Limousin qui gère les revenus des personnes qui gagnent leur vie avec des droits d'auteur en France. Et apparemment, ces gens-là ne sont pas très contents de la qualité de service. Bref.
Alors, Mastodon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y sont allés et qui en sont revenus. C'est vrai que c'est vraiment le... Je dois en parler parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah mais non, mais il y a l'alternative, il y a Mastodon, ça va très bien fonctionner. » Il y a plein de gens qui ont testé Mastodon, c'est super bien. C'est vraiment un truc d'ingénieur fait dans la philosophie louable de l'open source et de Linux. Et l'autre tweet que j'ai lu, que j'ai trouvé tout à fait juste, dire « demain, c'est le jour de Mastodon », enfin « cette année, c'est l'année de Mastodon », c'est comme dire « cette année, c'est l'année de Linux ». C'est exactement la même chose. Essayer de set up un compte sur Mastodon, c'est incompréhensible. Les gens qui connaissent le font très bien, et il y a énormément de valeur à avoir sur Mastodon. Moi, j'ai mon compte, c'est patrick@mastodon.social. Allez-y, ajoutez-moi, je serai très content de vous avoir. Mais il faut être réaliste. C'est un truc qui aurait besoin d'un travail énorme sur l'interface et l'UX pour être aussi accessible qu'un truc comme Twitter.
Non, mais c'est comme installer Linux sur disquette, tu vois ce que je veux dire. Je dis sans connaissance de cause, je l'ai fait. Et voilà, c'est pas à portée de... Non.
Voilà.
Non.
Et malheureusement. Puis,
Alors en plus, ça pose des questions de vie privée. Moi, j'ai découvert, et je ne savais pas, que quand tu es l'opérateur d'une instance Mastodon, bah, tu as accès à tout. Donc, problème quand même.
Écoutez, voilà pour cette petite discussion sur la suite de Twitter. On verra.
La suite au prochain numéro, hein,
ouais,
dans une semaine.
Oui, peut-être. Mais c'est ce qui se passe.
Il y a littéralement des news chaque heure.
De loin, la plus importante des infos de cette semaine. Du coup, bon, on va passer à la suite. Avant ça, j'aimerais vous rappeler que, contrairement à Twitter, nous, on vit grâce au soutien grâce aux, aux auditeurs. Et c'est peut-être le meilleur moyen. Alors, il y a un petit peu de pub aussi. Hein, ça permet d'avoir un équilibre, de ne pas se reposer entièrement, d'avoir entièrement ses œufs dans un panier, surtout en période de récession. Mais si vous voulez vous soutenir l'émission, bah vous pouvez en choisissant, alors c'est pas 20 dollars, c'est pas 8 dollars, vous choisissez la somme que vous mettez par épisode et c'est vous qui gardez le contrôle total sur cette chose-là et vous me dites mais qu'est-ce que je vais avoir si je choisis de soutenir le Rendez-vous Tech ? Eh bien vous aurez des contenus bonus, pas de pub. Ça c'est assez sympathique, pas même cette petite section promo au milieu et vous aurez des time codes dans les émissions, enfin dans les notes de l'émission, etc., etc. Donc, plein de contenu cool et surtout le fait de soutenir une émission que vous appréciez. Je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech pour y jeter un coup d'œil.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec le reste de l'actu. Et là, je me retourne vers Adrien, qui va nous parler. Alors, comment on prononce ? C'est Temu ? Timu, c'est le...
Temu,
ouais. Ok. Bon, moi je voulais faire un petit peu exotique. Temu, T-E-M-U, qui est l'application de shopping la plus téléchargée aux US. Elle est dans le top 10 depuis des semaines. Et c'est une application chinoise. Tu me disais, quand on préparait l'émission, tu me disais, c'est un peu le TikTok de l'e-commerce, là, en ce moment.
En tout cas, sur la croissance. Sur la croissance. C'est-à-dire, tu vois, on les connaît pas. Je suis certain que peu de tes auditeurs le connaissent. Et je te fais un pari, d'ici 6 mois, 9 mois, 12 mois, tout le monde en entendra parler. Derrière, c'est qui ? C'est Pinduoduo. Et pareil, peu de personnes le savent.
Pinduoduo, pour ceux qui n'ont pas...
Exactement. Et alors, c'est un site e-commerce en Chine qui a 750 millions de clients. Ils ont dépassé Alibaba l'année dernière. 750 millions de clients, juste pour le mettre en perspective, c'est deux fois Amazon, tous les clients d'Amazon. Amazon, c'est 310 millions de clients. C'est deux fois la population des États-Unis. Donc, c'est juste monstrueux, faramineux. Et ils se sont dit en septembre dernier, on va lancer une application pour nous, Français ou Européens et Américains. Ils ont lancé cette application Temu. Et figure-toi qu'en quelques jours, elle s'est propulsée en app shopping devant Amazon, Walmart, Target, eBay, etc. Et elle est restée numéro un pendant des semaines. Elle est extrêmement populaire. Et il faut le mettre en perspective avec les médias et les influenceurs qui n'en parlent pas du tout. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille. L'application est extrêmement virale. Et elle repose sur quoi ? Écoute, c'est un peu à la Shein. Peut-être que tu as entendu parler. Cette application qui te permet d'avoir des produits pas du tout chers. Tu peux recevoir chez toi, qui sont fabriqués en Chine. Je t'ai pris quelques exemples pour vous faire sourire. Tu peux trouver sur Temu des baskets à 5 dollars, des AirPods Lite à 3 dollars ou une station de chargement sans fil à 2 dollars. Donc, je te laisse imaginer la qualité des produits. Malheureusement, c'est un désastre écologique, mais ça, c'est une autre discussion.
C'est-à-dire que c'est des produits qui sont envoyés de Chine et livrés dans la semaine.
Exactement.
Pour des sommes, effectivement,
ils ont pris une partie des marchands de Pinduoduo, ils leur ont dit vous pouvez vendre hors de la Chine et on va vous onboarder. Donc ils en ont pris 10 millions je crois pour commencer et ils vont en prendre de plus en plus. Donc le modèle est intéressant parce que tu peux avoir directement avec les fabricants chinois, tu peux avoir des produits pas chers, mais malheureusement c'est triste de voir le succès de ce genre d'app. Mais bon, période de crise où les gens font attention à leurs dépenses, on peut comprendre que ça fonctionne. Ouais. Donc, je vais t'en parler parce que cette application va continuer à grandir et c'est incroyable d'imaginer qu'elle était inconnue il y a encore 2 mois et elle est devant Amazon et tous les autres.
En l'occurrence, ils travaillent avec AliExpress, Alibaba AliExpress, et Wish, qui est interdit en France au moins, peut-être même en Europe.
Ils ont été déréférencés, Wish, c'est ça.
C'est ça, ouais. Déréférencés. Mais du coup, je ne sais pas si dans l'application, ça serait... Elle n'est pas encore disponible en Europe, hein,
l'application. J'ai réussi à la télécharger, donc je crois que si. Hein. Ah, enfin, pour Temu, okay. Si. Si, elle est dispo, tu peux t'amuser à acheter des chaussures à 5 ou 6 dollars.
Ouais.
D'accord. On ne parle pas forcément de marque, mais tu trouves quelques marques. J'ai trouvé du Lenovo, du Samsung. Donc, il y a certaines marques qui sont.
Bon, bah écoutez, quand vous entendrez...
Je suis en train de télécharger ça. Ça me rappelle les débuts d'AliExpress. C'est...
Quelle différence non, d'ailleurs avec AliExpress ? Parce qu'on peut acheter d'AliExpress aussi directement.
Alors, moi, pour avoir bien suivi ça et avoir fait quelques centaines de commandes, mais en longtemps, hein, enfin, je veux dire, c'était pareil AliExpress au début. Parce qu'en plus, AliExpress tirait parti d'un truc incroyable qui sont y a des accords mondiaux sur le transit du courrier et des paquets. Où, en gros, les pays acheminent chacun les paquets. Les lettres des autres avec ou sans rémunération, jugeant tout simplement que est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir une comptabilité fine du nombre d'enveloppes qui partent de la France vers l'Allemagne et de l'Allemagne vers la France quand ça doit s'équilibrer à la fin, donc finalement tout le monde s'y retrouve et ce serait juste plus cher d'en tenir comptabilité. Et ben pour la Chine c'était ça, il y avait un accord de l'Union postale mondiale qui faisait que c'était assez dingue, c'est-à-dire que t'achetais un truc à 2 euros et on te l'envoyait de Chine gratuitement. Et il y avait des exemples extraordinaires où aux États-Unis, les mecs se plaignaient en disant « Attendez, mais moi, je suis e-commerçant. Si je veux envoyer un truc dans le pâté de maison d'à côté, ça me coûte 8 dollars. » Bon, tout ça a été remis à plat. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'envois gratuits ou en tout cas que le prix de l'envoi est rebalancé dans le produit. Et puis surtout... tout ça arrivait sans droit de douane, sans TVA, sans rien, parce que c'était... En fait, on s'en rendait pas compte, parce qu'il n'y avait pas, de compte officiel qui était fait du truc, parce qu'en fait, des paquets étaient envoyés par des milliers de vendeurs indépendants. Mmh. Donc, il y avait AliExpress qui avait les chiffres. Et sinon que La Poste, Chronopost et les autres, eux, ils voyaient arriver des millions et des millions de plis. Et à un moment, la puissance publique a un peu tapé sur la table en disant « Attendez, stop !» Et du coup, bah, par exemple, quand tu commandes un truc sur AliExpress vers la France maintenant, et ben on rajoute la TVA dedans. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que tout à coup tous les prix ont augmenté. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Et je pense que Temu pour l'instant passe entre les gouttes. Genre...
Mmh. Ouais, peut-être. Ouais.
Voilà.
À voir. Vu, pas à pris. Suivre. OpenAI, encore eux, DALL-E, ils ont ouvert une API en bêta publique. Qu'est-ce que ça veut dire, une API pour DALL-E ? Évidemment, c'est le générateur d'images par intelligence artificielle. Eh bien, avec une API, les développeurs peuvent intégrer DALL-E à leurs applications. Ça joue encore sur l'évolution incroyablement rapide de cette catégorie de générateurs d'intelligence artificielle. Maintenant, n'importe quel développeur pourra intégrer DALL-E à son application. Alors, on verra comment les gens vont le faire, comment les développeurs vont le faire. Ça risque d'être assez intéressant. Et en parallèle à ça, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a annoncé qu'ils allaient livrer une version un petit peu limitée de leur propre générateur d'images qui s'appelle ImageGen. Et du coup, ils vont avoir, alors c'est 2 tests un petit peu limités, mais Google se lance aussi dans cette fête. Donc voilà, je pense qu'on arrive au peak Image Generator, à moins que ce soit que le début de la montagne. Mais en tout cas, ça continue.
Ah bah c'est que le début, parce que maintenant, tu génères de la vidéo, des modèles 3D, enfin, ce n'est vraiment que le début.
Et puis ça va s'affiner. Tu pourras décrire exactement ce que tu veux, et tu auras, moi, je veux une image de Cédric qui admet qu'il a tort quand on... une vidéo où il explique un extrait de podcast, tiens.
Voilà.
Après, une loupe infinie. À faire bugger, hein. Ils vont dire erreur.
Oui, c'est ça. C'est comme divisé par 0. Pas possible. Cédric qui, quoi, comment?
Ben oui, ça me fout. Does not compute.
C'est exact, littéralement, does not compute. You cannot compute it. Ça me fait penser à Yann dans nos discussions d'il y a bien longtemps quand on avait lancé le rendez-vous tech, où il nous disait que le streaming de jeux vidéo, c'était pas possible, ça marcherait jamais. Et finalement, lui, il a computé au bout d'un moment. Il a admis à contre-cœur en fait, oui, ça pouvait fonctionner pas mal.
C'était la génération d'après de « il n'y aura jamais de jeu sérieux sur les consoles ».
C'est ça, oui, exactement, exactement. Maintenant, c'est sur mobile. Oh, mais les jeux sérieux. D'ailleurs, Google continue le test de Google Play Games for PC. Donc, on aura bientôt les jeux facilement sur, sur PC. Les jeux Google Play, ça peut être intéressant. Mais, j'imagine que vous adorez les pubs. Vous en voudriez un petit peu plus, tous les deux. Toi, Adrien, c'est connexe à ton domaine. Donc, tu ne vas pas me dire non, tu adores les pubs. Les pubs.
J'adore ça, bien évidemment. Tant qu'elle est bien ciblée, écoute.
Mais c'est ça, exactement. Très bien, je l'attendais. Mais c'est vrai, une pub à son meilleur. Une pub, c'est un truc qui vous informe de quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais que vous ne connaissiez pas, que vous n'auriez pas, dont vous n'auriez pas eu connaissance autrement. La vraie pub qui est bien, c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est l'exemple que
je sens que Patrick va nous placer une pub. Et en plus, apparemment, il va falloir leur remercier après.
Les trailers, c'est des pubs. Et ça, c'est un truc qu'on ne se... Tu vois, on ne s'en rend pas forcément compte, on ne les considère pas comme tels. Mais les trailers, en fait, c'est des pubs. Et tout le monde aime bien les trailers. Enfin, bon, on nous les impose peut-être un petit peu moins que d'autres pubs. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, Netflix a commencé à lancer son niveau d'abonnement avec pub. Et on a constaté qu'il y a pas mal de studios avec lesquels ils n'ont pas l'accord pour intégrer leur contenu sur un niveau d'abonnement avec pub. Au hasard, Disney, Comcast, Sony, Warner Bros., etc. Alors, on peut imaginer que certains d'entre eux négocieront. Disney, ça me paraît peu probable qu'ils mettent leur contenu sur... Parce qu'il y a encore du contenu Disney sur Netflix, bien sûr. Mais à moins que peut-être qu'il y a du contenu genre, enfin, je ne sais pas, ABC ou ce genre de chaîne qu'on n'associe pas forcément avec Disney, qu'ils accepteront de laisser sur Netflix. Et toujours sur la pub, Uber a commencé à tester les pubs dans les notifications sur mobile. Ça, je suis un peu...
chouette.
Je suis moins convaincu.
Merci.
Ouais. A priori, c'est autorisé par iOS, mais on doit avoir le droit de opt-out. Donc de... Mais je ne comprends pas, moi. Enfin,
la promesse intéressante, c'est ils savent où tu es, où tu vas. Si t'as ils peuvent géolocaliser, te faire une pub. Donc là, je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait avant. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. Ils ont tellement d'informations. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire des pubs super pertinentes, c'est bien Uber, pour le coup.
Genre, t'es en train de marcher à côté de du magasin là où ils savent que tu adorerais aller. Tu passes devant et puis ça te dit... Vous savez qu'ils ont une promo $5 de moins sur votre prochaine commande ? Ce genre de truc.
Non, surtout, il a un coup d'avance sur là où tu vas aller si tu utilises Uber. Et ça, forcément, c'est intéressant. Moi,
et quand pour revenir sur les annonceurs, si tu es un annonceur et tu sais que la personne va arriver à côté d'un Ikea ou quoi que ce soit et que tu lui pousses, écoute, viens faire tes achats, t'as X%, ça peut être intéressant.
Ouais, sinon personne ne va chez Ikea par hasard.
Par hasard, oui, c'est vrai.
Mais tu vois, l'achat d'impulsion.
Oh, il y en a un à Madeleine. Il y en a un à Madeleine, ils ont des
bouquins. Oui, il est tout petit, mais tu vois, la visite d'impulsion chez Ikea, c'est
rare.
J'y crois pas. C'est plus rare. C'est plus facile, comme ils le font déjà, de dire tiens, regarde, tu vas à telle adresse, mais juste à côté, il y a un super burger. Ok, ça je veux bien y croire.
Et donc là, c'est de la pub indépendante d'Uber qui serait... enfin, indépendante, je veux dire, ça serait un réseau de pubs. Ils vont aussi mettre des pubs sur les voitures, mais ça, j'imagine que ça sera aux États-Unis, pas en France. Enfin, dans d'autres pays. Mais là, c'est de la pub parce qu'on a déjà les trucs « Oh, votre burger, quand vous arrivez, n'oubliez pas d'utiliser Uber Eats, machin. » Oui, ça, on a déjà. Mais là, ça serait un réseau de pubs, genre, ils vendent la pub aux plus offrants, comme on le fait. Peut-être qu'ils sélectionneront leurs annonceurs, mais comme on peut l'avoir sur Google, Twitter, n'importe où, quoi. Pardon, Adrien.
Non, je voulais rebondir sur, parce qu'on parle de la pub, là tout à l'heure tu parlais de Netflix avec l'abonnement, tu sais que sur Disney+, ils sont en train de mettre en place du commerce tout simplement dans leur app, donc tu vas pouvoir acheter directement dans l'app Disney+, des produits dérivés, des séries que tu regardes, et tu vois qu'ils se diversifient. Alors moi je serais le premier pigeon à acheter tout ce que je vois pour le coup, mais c'est intéressant, donc la diversification des revenus de ces apps.
C'est pas con le fait de vendre, parce que bon, chez Disney...
Et surtout quand tu binge-watch une série... Et que tu vois des produits, etc. Tu dis, et
bah imagine, surtout chez Disney, parce que bien sûr qu'il y a les grands geeks comme nous qui vont vouloir acheter des trucs Star Wars ou Marvel ou Dieu sait quoi, mais il y a surtout les enfants qui, tu vois, à la fin de, je sais pas moi, le dernier Disney qu'on va lui proposer une figurine ou un costume de bidule. Oh papa, regarde, je peux.
Moi, Je suis étonné que Amazon ne l'ait pas fait avant, tu vois. Il n'est toujours pas lancé sur Prime Video, tu mets sur pause, tu peux voir des produits et tu peux les acheter sur Amazon. Ça doit être une complexité technique, mais je suis sûr que le jour où ça arrivera, ça sera aussi un autre stream de revenus intéressant.
J'imagine que si Disney va le faire, Amazon va s'y mettre très vite après. Et l'opportunité est importante, c'est certain.
Ouais, mais du coup, les apps, après, le concept de Super App, tu peux te faire tout et n'importe quoi. Tu vas avoir de la pub sur Uber, tu regardes ton streaming, tu peux faire de l'e-commerce, etc. Donc, tout est un petit peu mélangé, quoi. Mais ça te montre aussi, peut-être pas le désespoir, mais en tout cas, l'innovation, ou en tout cas, le génie de tous ces marketeurs qui essayent de faire en sorte de rentabiliser leur audience au mieux. Mmh.
Ils se font petits, ils se font discrets, mais Meta, visiblement, eux aussi auraient l'intention de licencier plusieurs milliers d'employés. C'est notable, alors d'une part parce que c'est plusieurs milliers d'employés qui vont perdre leur emploi, essentiellement aux États-Unis, on imagine, ce qui n'est pas une situation enviable. Alors, c'est jamais enviable, mais enfin encore moins là-bas. Et en l'occurrence, ça serait surtout la première fois qu'ils font des vrais grands licenciements chez Meta Facebook, hein. Étant donné leur performance en bourse ces derniers temps, c'est peut-être pour rassurer les marchés, mais c'est quelque chose qui risque de faire un petit peu mal. C'est le cas dans la plupart de la tech. Au minimum, ils arrêtent les recrutements. On l'a vu chez, je crois, Google, Apple et peut-être
et Amazon
voilà.
Ouais.
Et donc, chez Meta, ils vont licencier. Et puisqu'on parle de Meta, Instagram continue dans la direction des NFT. Ils vont autoriser bientôt les créateurs à créer et à vendre leurs propres NFT dans les apps. J'ai l'impression qu'ils arrivent un peu après la bataille, mais les NFT ne sont pas totalement morts, peut-être.
C'est une idée qui coûte pas cher à mettre en place, j'ai envie de dire. C'est pas, tu vois, si ça marche pas, ça se verra pas. Donc, c'est à peu près sans risque. Sur les licenciements chez Meta, oui, parce qu'eux, en plus, ils sont quand même dans une perspective économique pas très fun. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la première fois qu'ils licencient massivement. Oui, c'est aussi la première fois qu'ils voient leurs revenus baisser. Enfin, ils sont en très, très mauvaise posture. Et ils disent juste, mais vous verrez dans 15 ans. Ah oui, mais vous verrez dans 15 ans, mais...
Quand on aura toutes les tests de VR. Oui, pardon.
Le plus triste, il y a 12 mois, presque du jour pour jour, on renommait Facebook en Meta et ton copain Marc t'expliquait qu'il allait recruter 10 000 ingénieurs. Et 12 mois plus tard, on entend justement des licenciements. Donc c'est vraiment.
Je suis pas sûr que c'est les ingénieurs qui licencient, hein, ceci dit.
Ah non, pas du tout. Hein. J'ai juste qu'ils étaient en pleine croissance l'année dernière, tous leurs souriaient, ils avaient des belles perspectives. Et aujourd'hui, la réalité du marché, la réalité économique, fait que c'est très, très compliqué pour eux, effectivement.
Une autre réalité qui rattrape quelqu'un, c'est au Salvador. Vous vous souvenez qu'ils ont fait un gros pari sur le Bitcoin. Bon, vous pouvez imaginer que maintenant, ça ne va pas forcément super bien pour eux. Et c'est assez dramatique. Tu disais il y a un an, je crois que c'était il y a à peu près un an aussi que Nayib Bukele avait fait ce pari. Et là, la chose qui est triste, c'est qu'à l'époque, on disait déjà, mais c'est volatile le Bitcoin, c'est peut-être pas une très bonne idée. Et ça s'est réalisé, c'était effectivement.
Mais c'est un peu comme Mastodon, tu vois. C'est comme disait, comment il s'appelle, qui fait Last Week Tonight, Bitcoin, c'est le meilleur de la crise des crypto-monnaies, c'est le meilleur de ce que tu ne comprends pas sur la monnaie et de ce que tu comprends pas sur l'informatique.
Elle est pas mal, celle-là. Non, Mastodon, je dois quand même m'inscrire un petit peu en faux. Il y a quand même des qualités au réseau que...
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un obstacle à l'entrée qui est quand même assez massif. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil que de se dire, comment je fais pour acheter du Bitcoin? Tu vois, c'est la première fois, c'est pas un truc, ça coule pas de source.
C'est vrai. Oui, et même la deuxième et la troisième fois, je te confirme que... Mais je suis convaincu que... Alors, on dérive un peu, mais je suis convaincu que cette sorte de complications, enfin d'aspects un petit peu arcaniques des crypto-monnaies a contribué à leur succès chez ceux qui s'y sont intéressés. Vous avez l'impression de manipuler la magie du système financier. Tu vois, ils disent « Ah, moi je comprends, les autres ne comprennent pas, mais en fait on va... » Et bon, ça a joué pour le succès du truc, quoi. Et puis, en conclusion, je mentionne que Russia Today a continué à trouver son audience sur les fameux réseaux dont on parle, sur la liberté d'expression, en l'occurrence Rumble, dont on parlait déjà la semaine dernière, qui est un réseau, c'est un petit peu le le YouTube de l'extrême droite, et bien Russia Today continue à faire sa propagande sur ce réseau-là, et il semble, l'appareil de fermatrol russe semble se remettre en route sur les réseaux comme Gab et Parler, enfin ces réseaux d'extrême droite. Et à côté de ça, TikTok, c'est... je ne sais pas si c'est drôle ou pas. TikTok, vous savez qu'on avait des informations selon lesquelles certains en Chine avaient accès aux données des utilisateurs américains et les execs américains avaient dit non, pas du tout, sur ma vie, je te promets, ce n'est pas le cas. Et on s'est rendu compte ensuite qu'en fait, si. Bah, finalement, ils vont mettre à jour, a priori, hein, leur politique, leurs conditions d'utilisation début décembre, pour confirmer que le staff en dehors de l'Europe, y compris en Chine, a accès aux données des utilisateurs européens. Donc, au moins, ils vont le mettre noir sur blanc. Alors, évidemment, c'est censé être des données agrégées, machin, mais au moins, ça sera clair. Au moins, on comprendra.
C'est un secret de polichinelle. Enfin, ça, c'est rien de neuf sous le soleil. Toutes les décisions sont prises en Chine. Et même les équipes locales ont très, très peu de marge de manœuvre, de toute façon. Donc, c'est une société qui, de toute façon, pilote tout depuis la Chine.
Et si vous voulez une petite histoire, un downer pour finir, il y a sur Wired un article vraiment intéressant sur la manière dont l'Internet ouïghour a été effacé. Suite aux exactions de la Chine dans la région. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les sites en langage ouïghour ont vu leurs administrateurs incapables de continuer à maintenir les sites, soit parce qu'ils ont été tués, arrêtés, ou simplement ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ces choses-là. Et donc, le net ouïghour, le web ouïghour, a en fait disparu, ou n'est plus mis à jour, est en retard, enfin, il a disparu. Donc, l'article est intéressant, il sera dans la newsletter, mais je vous encourage à y jeter un coup d'œil. C'est juste une constatation un petit peu amère de conséquences auxquelles on n'avait pas forcément pensé de ce qui s'est passé dans la communauté.
C'est malheureusement pas très étonnant.
Oui. Tu vois, on pense aux martyrs du peuple ouïghour, on ne pense pas forcément aux conséquences que ça va avoir ailleurs et sur le net. Et en l'occurrence, l'article explique bien comme le web ouïghour a cessé d'exister. Bon, allez, un dernier truc quand même. J'ai vu un tweet de CNET, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais c'est un tweet récent où il montre la manière dont les robots de Boston Dynamics réussissent à faire du parcours. Alors, ce n'est pas tout à fait du parcours où on escalade les immeubles, mais c'est un parcours d'obstacles où le robot saute sur différentes boîtes, fait un petit parcours, il saute en latéral, d'un bloc à l'autre, sur un truc long de bois. Il marche sur des trucs de biais, en pente. Il saute au-dessus, genre il prend appui sur un parapet et il saute au-dessus. Genre vraiment, il prend appui avec la main et il saute au-dessus avec les jambes, puis il fait un saut périlleux arrière. C'était il y a 5 ans où ces robots arrivaient à peine à marcher, quoi. Incroyable.
Ils font des saltos aussi dans tous les sens. Enfin, c'est impressionnant. Mm-hmm. Ouais.
La gestion de l'équilibre, exactement. Ils sautent en fait. Ils ont mis des planches inclinées de chaque côté du chemin et ils sautent de l'une à l'autre avec donc les pieds qui s'appuient sur les planches inclinées, mais inclinées de directions différentes. C'est fou. C'est incroyable. On va dire que ça va nous aider à créer des robots qui... aideront par exemple les personnages et les personnes handicapées, ce genre de choses, plutôt que d'imaginer Skynet tout de suite, n'est-ce pas, comme c'est l'habitude.
Pour Skynet, il y a un peu de patience.
Ah, voilà, on n'y est pas encore. Ça, c'est l'étape 1. D'abord, c'est les robots. Ensuite, Imagen de Google devient conscient et prend leur contrôle. Ça, on a encore le temps. Après, on sera plus là pour le voir. C'est nos enfants qui géreront.
Comme tout le reste d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils auront des tu vois, ils pourront forcer les choses pour des questions de changement climatique. Franchement, vous n'êtes pas très bon pour prendre les bonnes décisions. Laissez-nous faire, ça va beaucoup mieux se passer. Voilà, prenez Twitter, vous amusez là-dessus, tapez, il y avait des vidéos maintenant, vous pouvez même mettre des vidéos en bonne qualité sur Twitter. Donc, occupez-vous de ça, il y a TikTok aussi, très bien. Nous, on va gérer le reste. Et peut-être que ça ne sera pas si mal, finalement. Peut-être que Skynet, c'est la solution.
Voilà, j'aime ton optimisme.
Quelle belle conclusion.
Merci Cédric, merci Adrien d'avoir été...
Tu tiens ton titre. Peut-être que
Skynet, c'est la solution. Écoute, c'est bien possible, c'est bien possible. Et seuls ceux qui resteront jusqu'au bout, comprendront. Donc, merci Cédric, merci Adrien. Adrien, dis-moi, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé de tes lumières e-commerçatrices. Où peut-on te retrouver?
Un robot n'aurait pas fait cette erreur.
Non, mais clairement.
J'attends la version robot.
Il y a des choses à corriger là-dedans. Où peut-on te retrouver, dis-moi, sur Internet?
On tape le café de l'e-commerce dans Google et puis on trouvera tous les liens dans le podcast. Et donc, je fais un podcast hebdomadaire avec Laetitia Lamary et on décrypte l'actualité du e-commerce et du digital chaque semaine avec un ton très détendu.
Le café de l'e-commerce, merci beaucoup.
Je vais aller écouter ça avec voracité.
Je te le recommande.
On va t'inviter, hein. Tu feras un épisode avec nous alors, pour boucler la boucle.
J'ai pas grand-chose à dire sur l'e-commerce, là je peux pas me réclamer une
position. Non mais tu as utilisé AliExpress, hein, okay. tu peux témoigner de...
Ouais, c'est ça, voilà. Là j'ai pas la checkmark. Hein.
Mais non, mais c'est le café de l'e-commerce, c'est très sympa parce que c'est, bon, évidemment c'est le sujet, mais c'est aussi effectivement assez détendu, c'est ludique, c'est très cool, j'aime beaucoup le podcast. Cédric, quand est-ce qu'on en parlait tout à l'heure, quand est-ce que tu relances la French Connection alors?
Laissez-moi tranquille. J'ai un vrai métier.
Bon,
pour ceux qui n'ont pas de longue barbe et qui nous écoutent, la French Connection, c'était un podcast que j'ai fait de 2008 à 2011 sur Feu LCI Radio et c'était formidable. Et depuis, évidemment, à tous les coins de rue, on me dit tu es un grand, quand est-ce que vous en faites la French Connection? Je suis conscient du fait que c'était super et c'était une sorte de parenthèse enchantée, mais il s'est passé plein de truc depuis. Maintenant, j'ai un vrai travail. J'ai trois enfants. Enfin, voilà. mais quand même, j'arrive à sortir une fois de temps en temps les doigts dans la prise. Mon podcast formidable sur la voiture électrique, la voiture autonome, les nouveaux modes de mobilité. Voilà, ça marche très bien. Et sinon, en attendant que j'en fasse plus, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Cédric, pourvu que ça dure.
Super, merci beaucoup à toi Cédric. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Patreon.com/RDVTech, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir l'émission si vous le souhaitez. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, cling. Oh, Patrick, je pense à Skynet et à Patrick, les robots Boston Dynamics, et Patrick. Je pense à Elon Musk et Patrick. Quand ça fait cling, c'est Patrick. Tu vois, moi aussi, j'ai de la fibre de l'annonce publicitaire bien ancrée en moi. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour ça. Le lien est dans les notes de l'émission. Et sinon, c'est notepatrick.com. Enfin, à vrai dire, tous les liens sont dans les notes de l'émission, y compris celui de la newsletter. Vous pouvez vous abonner et recevoir la newsletter tous les vendredis avec le meilleur de ma veille. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord où on discute de plein de sujets différents. On a même un thread sur Musk et Twitter où les choses chauffent un petit peu, j'avoue. Mais c'est toujours dans la bonne humeur au final. On est bonne ambiance quand même et puis il y a plein d'autres sujets super cool. Et quand les enfants sont pas malades, c'est le midi, mardi et jeudi sur Twitch pour l'émission en direct. C'est sympathique aussi. On a d'ailleurs le replay sur YouTube. Et comme je le disais, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les replays en vidéo, eh ben vous pouvez. C'est directement dans les notes de l'émission. Merci à tous et à toutes. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode avec un petit peu moins d'Elon Musk, j'espère quand même. On fera plus vite, c'est promis. On ne va pas se répéter. Ciao à tous. Et à tout.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.